Europe 1.
Europe 1, 10h-11h, Mediapolis. Olivier Duhamel.
Bonjour à tous, c'est Mediapolis, l'acte je sais plus combien, et nous recevons l'émission donc sur les rapports entre médias et politique, réalisée par Jean-Luc Arblade et préparée par Paul Lassène. Et avec nous aujourd'hui, un duo de choc. Ils ne se quittent jamais, ils sont professionnellement paxés, ils travaillent dans le même journal, Challenge. C'est le sixième livre qu'ils publient ensemble. J'ai nommé deux membres d'une espèce pas en voie de disparition, mais de plus en plus contestée, celle des journalistes politiques. À ma gauche, Maurice Safran, et à ma droite, Nicolas Domnac, auteur de, cette fois-ci, Le tueur et le poète. Et pour commencer, Canteloup.
Et un mot de l'affaire Décathlon, la marque a renoncé à commercialiser un hijab pour joggeuses. Des personnalités de droite comme de gauche étaient vent debout contre cette initiative. Éric Ciotti, bonjour, qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Écoutez, le gouvernement, sur cette histoire de voile, n'a rien fait. Chacun le sait. D'ailleurs, on nous ment, Madame Julie.
Ah ?
Décathlon, oui. Décathlon se gargarise en disant qu'il a tout retiré. Il n'a pas reculé. Écoutez, je suis un homme de terrain. Je suis un élu local. Et comme tous les élus locaux, je vais voir les commerçants dans les magasins. J'y étais ce matin à Décathlon. Il y a tout un rayon voile.
Non, mais ce sont des sports nautiques, ça, les
voiles. Oui, écoutez, ne jouez pas sur les mots et sur les disciplines. En tout cas, il y a un rayon voile. Voilà. Personnellement, je suis choqué. Pourquoi ? Non, mais franchement, monsieur Agas, pourquoi commercialiser ces produits humiliants conçu pour cacher les cheveux?
Ah, vous trouvez que c'est une insulte aux femmes?
Non, je trouve que c'est une insulte aux chauves. Écoutez, je vais m'adresser à vous à titre personnel. Vous avez peut-être remarqué, parce que vous êtes quelqu'un qui avait l'œil. C'est vrai que je me dégarnis légèrement sur les tempes. C'est vrai que chez moi, c'est subtil. Mais vous savez, tous les matins, dans la glace, quand je me peigne, je vois que j'en perds. Je n'ai pas la chance d'avoir tant que ça des cheveux. Je paierais très cher pour avoir la crinière d'une joggeuse, qu'elle soit musulmane ou qu'elle soit concomitante. Écoutez, insulter les cheveux qui sont en face de moi, c'est honteux et irrespectueux.
Mais à ce point,
à ce point, totalement. Donc je compte donc lancer très prochainement une grande manif pour touf. Voilà. Pour défendre les tifs. Donc je le dis, touf ensemble. Ouais.
Allez, non.
Ce que j'adore, c'est qu'elle soit musulmane ou qu'elle soit concomitante. Bon, alors, à part l'humour de Canteloup, qu'est-ce que vous pensez, messieurs, de cette immense polémique autour du djihad de Décathlon ?
Ah bah d'abord, la violence à laquelle ça donnait lieu, de tout côté, était absolument sidérant. À quel point ça s'est enflammé tout d'un coup, avec une dénégation, une délégitimation de chaque camp, de chaque position. J'ai trouvé en particulier ceux qui accusaient la moindre critique sur le voile d'être accusés d'islamophobe, avec une force, une violence, d'être traité de raciste. Ça m'a sidéré.
Nicolas Domnac, donc.
Et le second point, c'est que il y a quand même dans le choix du voile, je veux dire, un double impératif qui s'est révélé à ce moment-là, c'est-à-dire l'impératif des religieux disant vous avez à vous voiler, et puis l'impératif de la publicité qui se rejoignait en l'occurrence et qui rendait le sort des femmes qui sont confrontées à ça d'autant plus difficile. C'est pour ça que moi personnellement j'étais contre.
Oui, j'ai bien vu que vous commenciez en disant les deux camps et puis qu'en fait vous terminez dans l'un des deux. Maurice Safran, vous terminez dans le même.
Ce qui m'a sidéré. Ce qui m'a sidéré, c'est la violence de l'affrontement.
Oui, d'accord.
En oubliant de rappeler qu'il n'y a pas de question légale.
Oui.
Les femmes qui veulent courir avec le voile, elles ont parfaitement le droit de courir avec le voile. Mmh. Donc ça montre à quel point la question de l'islam, et non pas la question du voile, est devenue une question incandescente dans la société française.
Qui hystérise la société.
Pour moi, c'est ça qui m'intéresse.
Nicolas Domnac, qu'est-ce que vous pensez, juste pour le plaisir du débat, est-ce que vous pensez, donc on dit, alors, quand on est sur la position sur laquelle vous finissez par arriver, quoi que vous disiez dès le départ, on est sur l'idée que le voile est un signe d'oppression de la femme et que donc il est légitime de faire une campagne de boycott de Décathlon, etc. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de salafistes intégristes et dominateurs qui autorisent leurs femmes à aller courir, avec ou sans diable?
Je pense qu'il y en a qui courent effectivement, hein, avec, elles n'ont pas besoin d'une autorisation, etc. Mais si, je voudrais juste vous reprendre sur le fait que je suis arrivé à cette position. Pour vous confirmer, je suis arrivé à cette position, parce qu'au départ, j'étais sur celle, mais il y a quelques années, de, au fond, il faut une liberté totale, ouais, l'argument de la liberté qui existe.
Ah oui, non, je pensais pas au fil des années, je voulais juste dire là, dans votre...
Oui, mais sauf que c'est parce que je me suis rendu compte, en échangeant avec un certain nombre de ces femmes, qu'elles étaient soumises à une pression réel.
Oui, mais je maintiens celle qui va courir. Je veux dire, la femme soumise, elle reste à la maison. En général, on lui fait porter le truc intégral. Elle va pas dire, chérie, je vais courir, je mets mon foulard.
Non, mais on en est très fiers. Mais on pourrait faire remarquer à Nicolas que les anglo-saxons, qui sont pas moins démocrates que nous observent et nous regardent comme des dingues. Hein. Qu'il y ait eu un scandale pareil sur cette... C'est pas le voile intégral, hein, c'est pas les jeunes, c'est pas les enfants, c'est pas les jeunes filles, c'est pas tout ça. C'est des femmes adultes qui veulent courir avec un voile.
Et c'est pas l'exercice d'un service public que d'aller jogger dans un bois.
Donc c'est une... En tout cas, sur le fond, on dira ce qu'on en pense plus tard peut-être, mais c'est une vraie particularité française. Hein. Je répète, la presse américaine, par exemple, considère qu'on est fou furieux.
Et bien, comme tous les vrais couples, ils ont beau être professionnellement paxés, ils ne sont pas toujours d'accord sur tout. Alors, on va voir s'ils sont d'accord sur un autre sujet. Il y a plus de chances, parce qu'ils ont écrit le livre ensemble, qui s'appelle donc « Le tueur et le poète ». On parle évidemment d'Emmanuel Macron. Et alors, je ne sais pas si c'est eux ou l'éditeur Albin Michel... Mais ils n'ont pas été mollos sur la bande, hein, parce qu'ils ont rajouté sur le livre ce qu'on n'avait encore jamais osé écrire. Alors qu'est-ce que, juste avant qu'on revienne au sujet de l'actualité lui-même, qu'est-ce qu'il y a qu'on n'avait jamais osé écrire, Nicolas Domenac?
Dès qu'on parle d'Emmanuel Macron, on va dans la simplification, on y va à la serpe. Dire que c'est un tueur et c'est un poète, déjà sur cette contradiction-là, la gestion de cette contradiction-là, c'est passionnant.
Ensuite, donc vous voulez dire que tous les autres commentateurs sont très très grossiers et que vous avez été subtil, et que c'est ça qu'on n'avait jamais osé, c'est être subtil.
Vous poussez à la caricature, mais il y a de ça, je veux dire, est-ce qu'on peut parler de façon non-binaire?
Donc c'est bien vous la bande, alors.
Non, on peut parler de façon non-binaire du président de la République, ça serait pas mal, je veux dire, on comprendrait ses contradictions.
Mais ça, c'est pas exactement la démonstration de ce qu'on n'a jamais osé écrire, quand même.
Et ensuite, il se trouve qu'on a vu Emmanuel Macron, à la différence de beaucoup de journalistes politiques, soyons clairs, au fil des années, on l'a approché à plusieurs reprises, Maurice le premier, moi ensuite, et puis tous les deux, chacun ensemble ou séparément. Et donc, il y a effectivement dans ce livre des extraits de ce qu'il pense profondément et qui est important, dont il faut prendre compte.
Maurice, non,
ce qui est intéressant, c'est pas une réponse directe à votre question, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu, et il y a toujours, c'est en train de s'atténuer sans doute pour des raisons tactiques, mais il y a eu un conflit violentissime entre la presse politique et Emmanuel Macron, entre les journalistes politiques et Emmanuel Macron. Il y a eu une véritable guerre de tranchées qu'il a assumée pour de bonnes et de mauvaises raisons. Mais ce n'est pas inutile de rappeler que quand il a commencé à faire comprendre qu'il serait éventuellement candidat à l'élection présidentielle, en réalité, les journalistes politiques, quelle que soit leur sensibilité, se sont plutôt déchaînés contre lui. Et c'était inacceptable. Les vrais défenseurs du système, ce n'étaient pas les responsables politiques. Les défenseurs du système, c'était nous, les journalistes politiques. Ça nous était insupportable que ce jeune con de 39 ans ose prétendre être président de la République.
Là, vous parlez de votre corporation, vous-même, perso. Oui, non, vous, perso.
Je nous inclus dans la corporation.
Et alors, il y a
une discussion entre nous sur ce thème-là, précisément.
Alors, il y a une chose très amusante, c'est que dans l'avant-élection présidentielle, donc avant 2017, nos deux comparses, là, qui, je vous le répète, c'est un vrai couple, hein, eh bien, il y en a un des deux qui a assez bien vu venir l'élection de Macron, et l'autre qui n'y croyait pas du tout. Lequel? Ah ben, je vous réponds dans quelques minutes.
10h, 11h, Olivier Duhamel sur Europe 1. 10h, 11h, vous écoutez Mediapolis sur Europe 1. Ce matin, Olivier Duhamel, vous êtes avec Nicolas Domenac et Maurice Safran, éditorialiste au magazine Challenge. Ils ont écrit tous les deux Le tueur et le poète, paru en janvier dernier aux éditions Albin Michel.
Et alors, il y en a un qui a vu venir le tueur et il y a l'autre qui pensait plutôt qu'il resterait poète.
Non, pas exactement ça. C'est-à-dire que j'étais beaucoup mieux, moi, Nicolas Domenac, mieux informé que Maurice Zafran. Je veux dire par là que je croyais, comme j'étais intoxiqué par mes sources, qui étaient très proches du président de la République de l'époque, François Hollande, qui préparait sa future campagne, j'étais sûr qu'il allait y aller et que tout était prêt. Et au fond, quand il déroulerait le tapis rouge, c'est là où je me suis vraiment bien gouré et que Maurice avait raison, eh bien, Emmanuel Macron se retirerait devant.
C'est intéressant. Moi, j'en ai gagné plein de paris comme ça, parce que j'ai un précepte de longue date, c'est que dans l'analyse politique, parfois, il vaut mieux avoir un petit peu moins d'informations et un petit peu plus de recul. Oui, ça permet de moins se tromper.
On peut être empoisonné par ses sources.
Non, c'est clair, oui.
Non, mais moi, j'ai pas... Pour être très honnête, j'ai pas vu venir Macron. J'ai vu l'impossibilité radicale de Hollande de se présenter. Point. À partir de ce moment-là... effectivement, Nicolas me disait, mais il reste un trou de souris, il est évident, tout est prêt, ils sont intelligents, ils ont des moyens, ils ont le pouvoir, ils ont de l'argent, etc. Mais il était à 4-5% dans les sondages. C'était absurde, ça n'avait aucun sens. Donc c'est effectivement pourquoi, mais c'est une vraie question très intéressante, pourquoi des journalistes politiques avec autant d'expérience, etc., tout d'un coup, devant ce truc, devant ce désastre à droite et à gauche, c'était évident que ça pouvait être Macron ou un autre, mais que ça pouvait pas être Hollande.
J'ai une réponse pour vous sur ce pourquoi.
Ça m'intéresse beaucoup.
Parce que c'est la même chose que l'erreur de Trump. Je pense que j'ai la réponse parce que dans une partie de ma vie professionnelle, j'ai été où je suis juriste. Et c'est la même chose chez les spécialistes de la politique. C'est le poids excessif du précédent. Ouais. On a tendance à croire que ça va se passer comme ça s'est passé. Et si ça va se passer comme ça s'est passé, c'est complètement impossible que Trump gagne la présidentielle, c'est complètement impossible que Hollande ne se représente pas. Or, de temps en temps, ça ne se passe pas comme avant. Parce que c'est ça la clé des erreurs.
Pour compléter ce que vous dites, Olivier Duhamel, c'est vrai que j'avais vécu les échecs...
Très juste, vous pourriez dire qu'en effet...
Oui, c'était très juste parce que j'avais vécu les échecs, au fond, depuis loin. Hein. On peut remonter à Michel Jobert, François Bayrou, Jean-Pierre Chevènement, toutes les tentatives de quelqu'un de faire exploser le système, mais le système était moins vermoulu à l'époque, moins miné.
Et c'est ça qui tenait bon. Alors, pendant ce temps-là, depuis, il est devenu président de la République, et depuis, comme chacun l'a vu, il a connu une chute absolument vertigineuse tout au long de l'année 2018, par étapes, mais systématique et vertigineuse, et depuis, une certaine remontée. Alors, pour apprécier les choses, d'abord, écoutons un opposant assez vif, Dupont-Aignan.
Emmanuel Macron est un président du désordre qui sème la division parmi les Français. La petite propagande. Depuis des mois, pour assimiler des retraités, des artisans, des ouvriers qui simplement veulent vivre de leur travail à des casseurs est insupportable. Qu'un président de la République, ça rassemble, ça traite les problèmes.
Alors, est-ce qu'il a assimilé les retraités, les artisans, les ouvriers à des casseurs? Le propos de Dupont-Aignan est peut-être un peu excessif. N'empêche que Emmanuel Macron lui-même a quand même eu une phrase, qui fait écho en atténué à ce qu'on vient d'entendre.
Et il faut maintenant dire que lorsque on va le samedi dans des manifestations violentes, on est complice du pire. C'est tout.
Et les médias qui n'avaient normalement pas le droit de diffuser de son de cette rencontre avec des élus du Grand Est, c'était mardi dernier, se sont évidemment fait un plaisir de répercuter cette phrase les uns après les autres. C'est un raté, cette phrase, Maurice Zafran?
Ah non, c'est pas un raté. On peut ne pas être d'accord avec la phrase, ça c'est autre chose. Mais c'est totalement volontaire.
C'est une erreur, alors?
Sur le plan strictement politique, non. Sur le plan tactique, non. Aujourd'hui, on voit très bien qu'il a reconstitué un socle autour de 30, grosso modo.
Avec 30 à 40, selon les instituts.
Avec des électeurs de droite et de gauche, et que ce socle, il se construit notamment sur la sécurité. Oui. Il est devenu le président de la sécurité. Donc, c'est assez inouï.
Malgré son caractère éventuellement excessif, c'est pas une erreur.
Alors, ça peut être critiquable sur le fond. Oui. D'un point de vue tactique, pour moi, c'est pas une erreur.
Domnac, vous êtes d'accord?
Ah oui, complètement. Je pense que d'ailleurs, chaque. Quand même, on a d'ailleurs des points d'accord sur le fond. Oui. C'est que, d'ailleurs, pense que chaque manifestation accompagnée de violence, au fond, lui fait gagner encore un peu de points dans l'opinion, parce qu'il représente un pôle de stabilité, de proposition, et qu'il est le chef d'État, chef des armées. Enfin,
d'accord. Alors, dans les relations complexes avec les médias, il y a donc eu cette histoire que là, comme il est obligé de continuer sa tournée, parce qu'il a annoncé qu'il irait partout, dans toutes les régions et tout, et il est obligé de changer la manière de faire, parce que sinon ce serait plus que lassant, et donc il avait inventé là que c'était sans les médias. Il y a eu une autre histoire, c'est qu'il a refusé la diffusion d'un son d'un grand débat. Paul Lassen nous signale cette semaine ça, Paul Lassen qui prépare l'émission avec moi, une certaine conception de la liberté de la presse. Lors du grand débat entre le président de la République et les élus du Grand Est, les journalistes étaient autorisés à couvrir l'événement, mais ils n'avaient pas le droit de transmettre. Et comme je l'ai dit très vite tout à l'heure, le son qu'on vient d'entendre, malgré l'interdiction, il a été levé. Bon, on peut dire que ça, c'est un peu autoritaire quand même de vouloir interdire un son, et puis qu'en plus, ça ne marche pas. Je signale que la même semaine, il s'est produit, pour ceux qui ont les comparaisons un peu rapides entre Macron et Fidel Castro, je signale que Maduro, le président de Venezuela, a fait une interview avec des journalistes, et puis un journaliste qui lui a posé une question qui ne lui plaisait pas, vous savez ce qu'il a fait ? Il l'a arrêté. Il l'a foutu en prison immédiatement. Alors quand même, ça a été un tollé. Vous imaginez Macron tout d'un coup disant « Ah ben non, plein neige, j'aime pas votre question. Hop, au gnouf !» Et finalement, il a été obligé de le libérer. Mais on a quand même atteint une forme de sommet qu'on n'avait jamais vu en médias politiques. Un journaliste emprisonné en direct parce que la question ne plaisait pas au président. On n'en est pas là. Mais dans la relation avec les médias, vous trouvez qu'il y va un peu fort dans la restriction?
C'est pas le problème de la relation avec les médias.
Bon,
il a très bonne relation avec les journalistes économiques, avec toute une série de gens. Oui. Le problème, c'est les journalistes politiques. Il faut bien cibler ça. Avec les journalistes économiques, par exemple, tout s'est toujours très bien passé. Même ceux qui ne sont pas du tout sur sa ligne économique, il les considère comme des gens sérieux.
Mais
même,
parce que les journalistes politiques... par exemple, le célèbre précepte de Cannes, Jean-François, oui. lâche, linge. Les médias lèchent le nouveau pouvoir, la popularité agile, lynche lui tombe dessus. En tout cas, ça s'est passé avec Sarko, ça s'est passé avec Hollande et ça s'est passé avec Macron. Alors on peut dire, dans la défense, mais c'est pas les médias, c'est l'opinion. Et que les médias, ils sont quand même en harmonie un minimum avec l'opinion, ou on peut dire si, c'est un phénomène récurrent. Non, alors vous savez quoi ? Vous allez me donner votre avis dans quelques instants.
Jusqu'à 11h sur Europe 1, vous êtes avec Olivier Duhamel. Vous écoutez Mediapolis avec vos deux invités ce matin, Olivier, Maurice Safran et Nicolas Domnac, tous deux auteurs de l'ouvrage Le Tueur et le Poète, paru aux éditions Albin Michel.
Et je demandais il y a deux minutes à mon ami Maurice Safran s'il était d'accord avec la thèse de Cannes, Jean-François, les médias lèchent, lâchent, lynchent, que j'ajustais en disant qu'elle s'applique particulièrement aux journalistes politiques. Et comme il adore me contredire, ce qui est tout à fait bien pour l'émission, il m'a dit « mais non, c'est pas exactement ça ».
Non, parce qu'il y a eu une période ultra difficile entre Macron et les journalistes. Alors, il avait vraiment pas la cote. Souvenons-nous très rapidement, un, c'était une bulle qui allait exploser. Deux, il n'avait pas de programme. Trois, il n'aurait pas de majorité.
Ça, c'était avant l'élection, absolument, vous avez raison.
Puis, il y a eu une période, effectivement, où là, tout d'un coup, il est arrivé, le loup formidable, le jeune président jupitérien, etc. Effectivement, là, tout d'un coup, la presse a été absolument sidérée. Et effectivement, il y a eu cette période lèche. Vous avez tout à fait raison. Et puis, on en est revenu quand ça a commencé les vraies difficultés. Dieu, s'il y a eu des difficultés.
Donc, il y a eu lâche.
Il y a eu lâche. Et le lynch était sur un point, c'est qu'il ne remontera jamais. Ouais. Voilà. Et ça, ce n'est pas tellement les journalistes politiques, c'est les sondeurs. Là, on pourrait faire ici le bêtisier de tout ce que les sondeurs ont raconté sur toutes les radios et toutes les chaînes de télé, où ils ont expliqué, c'est fini, 20-22%, c'est terminé. Et
ben, mais on se rend compte que... on a dit le contraire. Donc
Très bien, mais vous n'êtes pas sondeur.
Non.
Voilà.
Non, heureusement.
Ouais, on pourrait ajouter, cela étant, qu'il a aussi fait tout pour le président de la République.
Possible,
il a fait toutes les erreurs, toutes les bêtises possibles.
Vous expliquez comment ça ?
Parce qu'il a voulu faire de l'anti-Hollande, d'abord de l'anti-anecdote. Hein. Vous savez, le journaliste politique, c'était l'anecdote, c'était la superficialité. Donc il fallait les tenir à distance pour réhabiliter la fonction présidentielle, lui redonner de la distance. Donc il l'a fait au point de virer les journalistes de l'Élysée, quand même. Je veux dire, de la cour de l'Élysée, ce qui est symboliquement...
Non, mais symboliquement.
Simplement, oui. Attendez, c'est important quand même pour les journalistes qui avaient accès directement à toutes les entrées et sorties, je veux dire, même si c'était un poste de concierge, n'empêche que ça vous donnait une vision directe sur ce qui se passait. Et puis symboliquement, c'était insupportable. Donc il a créé un climat de guerre, et quand on l'a vu d'ailleurs, avant la dernière rentrée, avant la rentrée de 2018, là, il sentait bien qu'il avait quand même fait une erreur, parce qu'il en refusant de parler aux journalistes, il refusait de parler à la France en même temps, quoi. Il a raté.
Alors très souvent, il attribue, lui, Macron, il attribue ses difficultés ou les critiques qu'on lui fait au nouveau système. Il dit c'est le système des réseaux sociaux et des chaînes infos qui sort les choses de son contexte, qui amplifie tout, qui fait d'avalanche une toute petite boule de neige, la provoque et en fait une avalanche, et il met en cause assez largement les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, très souvent, on entend mis en cause les réseaux sociaux, même en plus avec une phrase qui est avec une association qui est sans arrêt répétée, on dit les réseaux sociaux et les chaînes d'info. Les réseaux sociaux et les chaînes d'info continuent. Comme si c'était la même chose, alors que c'est deux phénomènes nouveaux, mais qui ne sont pas exactement du même effet. N'empêche que cette semaine, sur le lèche-lâche-linge qu'on peut appliquer aux réseaux sociaux, on est un petit peu obligé de revenir à leur aspect positif quand on regarde ce qui se passe en Algérie. Écoutez, le directeur du quotidien algérien, El Watan, sur Europe 1, c'était avant-hier.
Les réseaux sociaux qui sont difficilement contrôlables ont permis cette révolution pacifique dans mon pays. Je crois que c'est très important de le dire. La presse traditionnelle est contrôlée. Il y a beaucoup de difficultés à travailler, à collecter l'information, à maintenir son indépendance éditoriale par rapport aux autorités. Le vent de liberté, ce sont les réseaux sociaux qui ont réussi à l'imposer en Algérie aujourd'hui.
D'accord, Maurice Safran ?
Oui, on est en train de se rendre compte d'une contradiction curieuse sur laquelle il va falloir réfléchir. Dans les pays démocratiques, les réseaux sociaux posent un problème démocratique, d'antidémocratie. Mmh. Et dans les pays totalitaires, ou dans les pays fermés, ou dans les pays sans information, la liberté, c'est grâce aux réseaux sociaux.
Ça, c'est très
Donc,
intéressant.
Il y a une vraie contradiction dans ce qu'on constate.
Toute chose égale par ailleurs, ça me fait penser à ce que disait Umberto Eco de la télévision. Il disait la télévision rend intelligent les gens bêtes et rend bêtes les gens intelligents. Mmh. Et ça, il y a quelque chose comme un écho à
et là,
cette idée
c'est tout à fait vrai qu'en Algérie,
selon où et quand ça se passe. Et donc là, alors là, Maurice Safran, on gardera cet élément d'analyse sur les réseaux sociaux qui quand même va un peu plus loin que le il y a du bien et du mauvais, quoi. Il y a du bon et du moins bon. Ça dépend en effet beaucoup où on se passe, et il n'y a aucun doute, personne ne peut dire aujourd'hui, avec la révolte populaire contre le sixième mandat, c'est ça, de Bouteflika, sanglé sur un fauteuil roulant et incapable de prononcer un seul mot, personne ne peut dire aujourd'hui que les réseaux sociaux jouent un rôle négatif en ce moment en Algérie.
Mais il y a un point amusant, vous qui aimez les paradoxes, c'est que Bouteflika, qui est un personnage en théorie de chair et d'os, est en train de devenir une image. On ne voit plus que, au fond, cette image se propager, alors que quelqu'un comme Rachid Nekaz, un homme du net, est en train de gagner une popularité extraordinaire et de devenir réel.
On est. C'est un mot là-dessus, parce qu'en effet, Rachid Nekaz, c'est quand même la découverte pour les Français, en tout cas. C'est la découverte de la semaine.
C'est la découverte parce qu'il a 1,5 million de followers à peu près. Enfin, il vient de France et il a fait sa fortune, semble-t-il, en venant du net, en partie, et d'autres façons. Et il déboule dans ce paysage politique et c'est lui qui n'est au fond qu'une image et qui, quand il est accueilli partout et porté par des jeunes, dire sur leurs épaules, etc., par des milliers de jeunes. Donc cette image artificielle a pris sa réalité, tandis que la réalité de l'autre, de Bouteflika, est devenue totalement artificielle.
Alors on va voir où ça conduit parce que il y a une grande différence dans les mouvements politiques quand ils sont non seulement un tant soit peu organisés, mais quand ils sont incarnés. Et quand ils sont incarnés, il y a pas mal d'exemples dans l'histoire de mouvements qui, du coup, au bout de l'histoire, l'ont emporté parce que, justement, leur incarnation existait. Et d'autres qui ne le sont pas et qui s'effilochent. Et j'imagine que vous avez une petite idée de à quoi je pense quand je parle d'un mouvement né lui aussi avec les réseaux sociaux, lui aussi inédit, mais qui, notamment faute d'une incarnation claire et d'une organisation, s'effiloche de samedi en samedi, en disant de samedi en samedi, j'ai évidemment réduit le suspense, on le traite dans quelques instants.
Europe 1, Europe 1.
Médiapolis, c'est jusqu'à 11h sur Europe 1. Maurice Safran et Nicolas Domenac, éditorialistes au magazine Challenge, ont écrit « Le tueur et le poète » paru en janvier aux éditions Albin Michel. Ils sont vos deux invités ce matin, Olivier Duhamel.
Et je vous pose la question que je vois inscrite sur une des chaînes info, en l'espèce le bandeau d'LCI. Macron est-il en train de gagner la partie avec les Gilets jaunes? Alors, il y en a un qui donne sa réponse à cette question, qui s'appelle Éric Drouet, et c'était jeudi.
Il y en a beaucoup qui se posent des questions sur « oui, mais là, on est déjà à 3 mois, on n'a rien eu, tout est remonté, mais ils vont pas le montrer, mais ils en ont excessivement marre des Gilets jaunes, que ça dure aussi longtemps, tant que les forces de l'ordre, que les politiques ou que le président lui-même. Hein. » C'est vraiment un ras-le-bol que le mouvement ne perde pas en intensité et continue et se mobilise encore chaque samedi comme ça. Ça les agace énormément. Il faut continuer, il ne faut pas lâcher. À mon avis, c'est une guerre d'usure. Hein.
Donc c'est subtil parce qu'au début, on se dit tiens, il va reconnaître que l'opinion se retourne. Il y en a qui ont marre des Gilets jaunes. Il va reconnaître qu'ils sont plus que 10% et même moins de 10% de ce qu'ils étaient au début du mouvement. À revenir dans la protestation, non, pas du tout. C'est le président de la République, les forces de l'ordre et les politiques qui en ont marre des Gilets jaunes, pas les autres, et il faut continuer. On a quand même le sentiment, enfin je sais pas, je vous pose la question, Nicolas Domenac, que c'est le commencement de la fin.
En tout cas, ce n'est plus ce que c'était, comme disait l'autre, c'est-à-dire que le mouvement... plein d'enthousiasme et de fraternité du début n'est plus là, quoi. C'est très très clair. Alors certes, c'est encore une...
Alors cela dit, il y a 3 chaînes info sur 4 en ce moment, ouais, qui nous donnent des images gilets jaunes, parce qu'il y a pas, ils ont fait le salon d'agriculture samedi dernier, ils peuvent pas recommencer, et il y a que France Info qui nous fait l'Algérie.
Et puis ça reste une baudruche à fantasmes, hein, quand même, hein, aussi bien fantasme pour l'extrême gauche, fantasme pour l'extrême droite.
Baudruche à fantasmes.
Mais oui, parce que chacun y a trouvé son prolétariat de substitution. L'extrême gauche, au fond, ouais, une partie d'entre elles vous dit que de là vient une nouvelle révolution à partir du moment, ouais, où ça bouge, c'est rouge. Et puis l'extrême droite, au fond, a trouvé là aussi son prolétariat rêvé. Au fond, cette France invisible qui devient visible et qui porterait elle aussi une révolution, avec le seul problème, c'est que il ne s'occupe pas suffisamment d'immigration. Alors ça quand même, ça les travaille. Mais n'empêche que ces deux extrêmes se conjuguent pour continuer à faire vivre un mouvement qui, au départ, était, je l'ai dit, était fort, fort fraternel et sympathique, et porteur de revendications du pouvoir d'achat, et qui s'est réduit de semaine en semaine. D'ailleurs, ils ont gagné des choses. Enfin, ils ont remporté des choses. Et maintenant, ça continue sans but clairement affirmé. Mais comme
vous êtes vraiment des invités super, parce que non seulement on ne s'ennuie pas, mais en plus vous dites des choses vraiment assez intelligentes et qu'on n'a pas entendues partout. C'est un plaisir. Est-ce que les Gilets jaunes, après je ne vais peut-être pas exagérer dans les compliments non plus, parce que sinon vous ne sentirez plus. Est-ce que les Gilets jaunes ont intérêt ou pas à présenter une liste aux européennes, Maurice Safran?
Je crois qu'ils n'y arriveront pas, surtout.
Oui, mais comme ce n'est pas ma question, si vous voulez bien avoir la gentillesse de répondre à ma question.
Non, je crois que c'est antinomique avec la nature du mouvement. Jamais Drouet et ses copains n'accepteront que les autres présentent une liste.
Est-ce que vous voulez bien répondre à ma question? Est-ce que s'ils y arrivaient, ils auraient intérêt ou pas à présenter une liste?
Moi, je ne pense pas. Je pense que c'est un mouvement qui s'est construit sur des bases, extrêmement compliquées d'ailleurs, mais sur des bases totalement différentes. Pour moi, le point principal qui fait qu'ils ne peuvent pas aller aux élections non plus, et c'est une manière directe de répondre à votre question, c'est que c'est un mouvement qui refuse... Alors, certaines composantes, c'est compliqué, mais qui refusent le dialogue et la négociation. Mmh. C'est ça le plus intéressant depuis le premier jour. Ils n'ont pas dit au gouvernement, voilà notre liste de revendications et on va les discuter, comme avec les syndicats, comme avec les lycéens, comme avec les étudiants, comme avec tout mouvement social ou contestation. Eux, ils ont dit, voilà notre liste, on ne vient pas discuter, on ne veut pas discuter, la seule chose qu'on attend, c'est que vous nous dites oui à tout. Donc c'est un mouvement de type extrêmement particulier. Et donc ça ne colle pas avec les élections.
D'accord. Vous voyez, quand on vous pose, vous finissez par répondre. Et alors les européennes, du coup, quel va être le principal, ou quels vont être les grands enjeux de ces élections européennes en France, Nicolas Domenac?
Ils sont formidables, mais permettez-moi quand même de prolonger la réponse de Maurice. Je pense qu'ils se ramasseront une ratatouille si jamais ils y vont, mais terrible. Oui. Parce qu'au fond, ce mouvement, ce qu'il caractérise quand même, c'est d'avoir été incapable d'amalgamer à lui, d'attirer à lui autre chose que lui-même.
Donc vous aurez tous les deux raisons, parce qu'ils n'iront pas, et vous direz c'est parce qu'ils ont vu qu'ils auraient pris une ratatouille.
Mais non, et c'est quand même terrible de dire ce mouvement qui devait attirer à lui les étudiants, étudiants, les jeunes, les banlieues, les fonctionnaires, les salariés des grands groupes, et ben non, ils sont restés à tourner autour de leur nombril.
Ah, c'était un mouvement égotiste.
Mais c'est ce que je crois, et au fond d'ailleurs, c'est Laurent Berger qui avait eu raison le premier, hein, en disant que c'était un mouvement social qui était devenu antisocial.
Oui.
C'est-à-dire donc qui est condamné au fond à long terme, tout en pouvant
du
continuer
coup,
à faire des
dimanches. Sans gilets jaunes.
Donc sans gilets jaunes, je pense moi en tout cas qu'il y a, c'est un enjeu formidable et pour le, alors en politique intérieure pour le président de la République qui est le seul à porter une cohérence européenne, hein, et pour les anti-européens qui se retrouveront même de façon masquée autour de Marine Le Pen. On a un affrontement qui s'est dessiné, qui se réalise. Et ensuite, bien évidemment, les enjeux, ils vont bien au-delà de ça, puisque pour l'Europe, c'est au fond, est-ce que c'est cette capacité à se créer en force face aux États-Unis, à la Chine.
Mais ce qui est très intéressant, bon, les élections européennes sont les élections pour lesquelles la mobilisation électorale est quasiment la plus difficile. Hein. C'est-à-dire qu'on atteint des taux de participation qui baissent à chaque fois, qui doivent être la dernière fois de l'ordre de 45% de mémoire. Et du coup, un des vrais problèmes des politiques et dans une certaine mesure des médias, c'est comment trouver un enjeu qui donne de l'intérêt à ces élections et qui fasse que les gens y aillent éventuellement voter.
Méfiez-vous de l'expérience, Olivier, que vous venez, une leçon que vous nous avez exprimée tout à l'heure.
Oui.
Ce qui s'est déroulé précédemment ne se déroulera peut-être
tout
pas cette fois.
Mais j'ai d'ailleurs pas dit que ça allait se dérouler cette fois. J'étais sur la recherche d'un enjeu. Alors, de temps en temps, les politiques l'offrent eux-mêmes, cet enjeu. Par exemple, quand vous avez Jacques Chirac qui décide en 79 de s'en prendre à Giscard et aux pro-européens, de dénoncer le parti de l'étranger et de se présenter aux élections européennes. Et en face de lui, Giscard qui envoie Simone Veil, et patatras, c'est l'enjeu principal, c'est la bataille au sein de la droite et du centre entre les Européens de Simone Veil et les nationalistes de Chirac, et c'est Simone Veil qui gagne. Là, il y avait un enjeu. Bon. Et d'ailleurs, en plus, c'est la première au suffrage universel, il y a eu une grosse participation. Du temps où il y avait Mitterrand lui-même candidat, etc., il y avait des enjeux. Là, c'est plus difficile, notamment parce qu'aucun des leaders n'y va. Un, parce qu'ils ne veulent pas se prendre une raclée. Deux, parce que s'ils ne se prenaient pas une raclée, c'est difficile d'y aller et de faire comme autrefois, de démissionner trois mois après, et que donc ils ne veulent pas aller s'enfermer, disent-ils, à Bruxelles ou à Strasbourg. Donc en plus, il n'y a pas de tête de liste très connue.
Je ne suis pas d'accord avec vous.
Sur quoi ?
Mais vous les avez, les leaders. Je veux dire, on s'en fiche des têtes de liste.
Mais
vous avez Emmanuel Macron d'un côté.
J'entends bien. Mais ils ne sont pas ceux... Quand France 2 va faire un débat entre les listes des européennes, ils ne peuvent pas dire... excusez-moi, Madame Aubry, excusez-moi, je ne sais plus qui. D'ailleurs, je ne sais plus qui. D'ailleurs, ils ne savent pas qui. D'ailleurs, ils ne connaissent pas les noms. Et donc, on va inviter pour notre grand débat Le Pen et Mélenchon. Ils vont être obligés d'inviter les têtes de liste. Donc, le débat. En plus, vous forcez à être trop long, à faire des incidents et tout, ce qui est mauvais pour l'émission et ce qui ne me permet pas d'aller à mon point central, qui est que l'enjeu fabriqué par les médias et les politiques, par ce que nous appelons ici, du mot qu'on a inventé avec Michel Fille, la média politique, c'est qui va arriver en tête entre Macron et Le Pen. Vous voyez, je parle comme vous.
Ben celui qui essaye d'inventer le prétexte média politique, alors c'est le président de la République qui cogne idéologiquement depuis des mois et des mois l'histoire des progressistes contre les nationalistes. Alors c'est vrai que intellectuellement et idéologiquement, c'est très intéressant. Est-ce qu'il mobilisera, pour répondre directement à votre question, parce que c'est ça son jeu finalement, sur le fond.
Vous datez Maurice Safran, il a ajusté, vous allez le voir dans son discours de la semaine prochaine, je vais vous l'expliciter, allez, dans deux minutes.
Très bien.
10h, 11h, Olivier Duhamel sur Europe 1.
Médiapolis continue sur Europe 1. Vous écoutez Olivier Duhamel et vos deux invités jusqu'à 11h. Olivier, les auteurs du livre Le Tueur et le Poète, paru aux éditions Albin Michel, Maurice Safran et Nicolas Domnac.
Merci Géraldine. Alors, Maurice Safran disait que l'enjeu, c'est Macron qui le fabrique et qui l'a bien fabriqué avec le clivage progressiste-nationaliste. Et je crois au contraire qu'il s'est rendu compte que l'expression progressiste était à la fois trop floue et trop restrictive, et qu'il est en train de corriger vers une nouvelle rhétorique, on va dire, qui est celle qui oppose fondamentalement les pro-européens aux anti-européens, mais traduit par les tenants d'une souveraineté européenne contre ceux qui veulent le repli sur une soi-disant souveraineté nationale.
D'accord.
Et ça, c'est un peu intellectuel, mais c'est pas complètement idiot de se dire qu'il y a un besoin de protection, il y a un besoin de souveraineté, et que faire comprendre que c'est au niveau européen qu'il peut s'exercer mieux qu'au niveau national, c'est, disons, c'est pas absurde, Nicolas Dominguez.
C'est même très très intelligent, à mon sens, mais ça confirme que c'est lui qui mène la danse, et on va le voir cette semaine, puisqu'il doit intervenir dans un, par une tribune dans un certain nombre de journaux européens. C'est encore une fois lui qui donne le là, et avec cette idée de fond, qui est que, contrairement à ce qu'on nous a raconté depuis des mois et des mois, les opinions européennes et l'opinion française restent pro-européennes. C'est-à-dire, on a fini par croire, au fond, qu'il y avait un mouvement anti-européen qui balayait l'Europe. Mais à la faveur du Brexit, à la faveur d'un certain nombre d'événements, on voit que s'il y a un désamour par rapport à l'Europe de Bruxelles, il n'en reste pas moins qu'il y a une volonté de rester européen.
C'est une chose qui est très intéressante. Il y a une grosse enquête publiée cette semaine, je crois que c'est Ipsos, je voudrais pas dire de bêtises, je crois que c'était Ipsos dans Le Monde, qui montre qu'il y a trois entre guillemets blocs, mais il y en a deux qui sont très petits et un qui est très grand. Il y a disons 15% de mémoire qui disent que l'Europe telle qu'elle est, ça va très bien. Il y en a à peu près autant, ou un chouïa plus, 17, qui disent de toute façon l'Europe, c'est le problème et il faudrait s'en débarrasser. Et puis vous avez un immense bloc central qui est globalement favorable à l'Union européenne, mais pas telle qu'elle fonctionne. Et ça, c'est une grosse difficulté pour tous les candidats, pour toutes les listes. Parce que celui qui se contenterait d'être sur une position totalement hostile, c'est un gros problème pour les Républicains, par exemple. Parce que chez eux, il y a vraiment les trois tendances et comment mettre ça d'accord. Et donc, je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles Macron parle de construire une souveraineté européenne. Parce que c'est une façon d'essayer de récupérer les positions critiques sur l'Europe.
Mais il y a une question de dynamique quand même aussi. Hein. Et la dynamique, elle est plus du côté de Macron. On l'avait vu pendant l'élection présidentielle. Je veux dire, si vous avez suivi, comme moi, les meetings et ça, comme Maurice, c'était au moment où on parlait d'Europe qu'il y avait un feu qui
ferveur,
se réveillait.
Ferveur,
et ça reste. Et moi, je vois les responsables d'En Marche ou les militants de base, pour l'instant, ils sont au plancher, ils attendent là, et ils vont partir quoi, sur l'Europe.
Et alors, pendant ce temps-là, Alice Baudry, qui surveille pour nous les événements et médias internationaux, Alice Baudry, directrice de la stratégie et du développement à l'Institut Montaigne, a repéré un article de The Atlantic sur la rencontre entre Trump et le leader Kim Jong-un, le leader de Corée du Nord. Enfin, pas que, justement, la rencontre entre les deux. C'était le premier jour du sommet. Ce qui était le plus important, c'était pas la description que donnait Trump de la conversation avec Kim Jong, description hallucinante, hein. Je cite Trump. « Bon Dieu, si vous avez pu entendre ce dialogue, ce que vous payerez pour ce dialogue !» C'est quand même hallucinant le niveau de vulgarité que peuvent atteindre un président des États-Unis d'Amérique. C'est pas non plus son refus de répondre à des questions sur le fait qu'à Washington, son ancien avocat, Michael Cohen, l'a carrément traité de, je cite, « raciste, escroc et tricheur ». Non mais on n'est pas dans une série télé, hein. On est dans la vérité des choses. Non, c'est que malheureusement, au même moment où il y avait la rencontre à Hanoï, l'Inde et le Pakistan sont entrés en conflit deux semaines après l'attaque par un terroriste d'un convoi des forces de sécurité indiennes qui a tué 40 soldats. Tout ça pour des revendications absolument contradictoires sur des territoires du Cachemire. Ce qui fait que si le sommet au Vietnam avait pour objectif de trouver qu'on avançait vers la paix, vers l'accord avec la Corée du Nord, c'est deux fois raté. Parce que d'une part, il n'y a pas eu d'accord, et que d'autre part, la situation géopolitique en Asie du Sud-Est peut être, en Asie tout court, peut être très très gravement mise en cause par le conflit entre l'Inde et le Pakistan. Et alors en France, là, je crois que je n'ai pas entendu un mot d'un seul politique sur les risques de guerre entre l'Inde et le Pakistan. Pas un. C'est pas un peu un problème, ça, ce rétrécissement de l'horizon de nos politiques, Maurice Safon?
C'est un rétrécissement spectaculaire. On n'a pas entendu grand-chose non plus sur Trump et Kim. On n'a pas entendu... Alors, sur l'Algérie, les Français marchent sur des œufs, donc à la limite, on peut comprendre. On n'a pas entendu un mot des politiques françaises sur la crise israélienne qui est très grave et qui a des influences partout dans le Proche-Orient. Donc, effectivement, on est... on est redevenu, alors peut-être par l'effet gilet jaune aussi, j'en ai plus, mais on est redevenu franco-français à un point flippant. C'est-à-dire, qu'est-ce que pensent nos responsables politiques de droite, de gauche, du milieu, les jeunes, les vieux, qu'est-ce qu'ils pensent de la situation mondiale ? On n'a rien. Et effectivement, c'est très stressant, je trouve, cette absence totale.
Alors, il y a un dernier sujet que je voudrais qu'on aborde au moins un tout petit peu dans une de ces dimensions, qui est le Brexit, par rapport auquel les choses ont beaucoup, beaucoup bougé cette semaine. Dans un instant.
Mediapolis, la suite. Olivier Duhamel est avec vous sur Europe 1 jusqu'à 11h. Olivier, on vous écoute avec vos deux invités présents ce matin, Nicolas Domenac et Maurice Safran, éditorialistes au magazine Challenge.
C'est très gentil à vous de m'écouter, Géraldine. Alors, il s'est passé deux choses importantes cette semaine. D'une part, Theresa May, pour la première fois, a laissé entendre qu'il y aurait une possibilité de reporter la date limite pour le Brexit qui est à l'actuel prévue pour le 29 mars, donc dans 27 jours, c'est pas très loin. Et la seconde chose, c'est que pour la première fois, le leader de l'opposition travailliste, Jeremy Corbyn, a soutenu l'idée qu'en cas d'échec et de non-accord au sein des chambres des communes, on pourrait envisager un second référendum, sans trop préciser sur quoi d'ailleurs. Bon, on ne va pas rentrer dans tous les scénarios, le détail et tout ça. À la fois, on n'a pas le temps et ce n'est pas l'objet de cette émission. On disait juste avant la pause qu'il y avait un extravagant, étonnant et attristant rétrécissement dans l'espace public de l'intérêt porté aux grandes questions internationales, même quand elles sont fondamentales. Il me semble que néanmoins, par exemple, sur le Brexit, qui est un peu traité de temps en temps, même chez les gens qui ne rentrent pas dans le sujet ou qui ne se passionnent pas pour le sujet, c'est quelque chose qui produit des effets, et des effets négatifs, que de voir que, juste de l'autre côté de la Manche, dans la plus ancienne démocratie du monde, il y a une incapacité crasse de l'ensemble des responsables politiques, conservateurs, travaillistes et autres, de tout simplement traiter une question dont ils savent qu'elle est sur l'agenda depuis 2 ans, et qu'on va vers un risque de chaos, vers un risque de crise, vers un risque de faillite pour des entreprises, de difficultés pour d'autres, à cause notamment de l'incapacité totale de la classe politique, et que donc, pour le résumer, je pense que le Brexit peut avoir, même en France, des effets populistes. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Mais je suis obligé de vous demander de répondre brièvement parce que j'ai été trop long, pardon.
Ah bon, moi je vais répondre brièvement. Hein. D'abord, ça nous permet de réfléchir sur les effets négatifs d'un référendum, pour ce qu'on voit qui n'a pas été pensé dans ses conséquences, ça c'est très très clair. Mais d'ailleurs, c'est très peu évoqué. Je veux dire, tous ceux qui étaient très favorables au Brexit précédemment, on ne les entend plus, là, tout d'un coup.
Le principal, Nigel Farage, quand même, il avait dit que ça gagnerait des millions et des millions et des millions de livres pour le système de santé. Et dès le lendemain du référendum, il a dit non, j'ai dit ça, mais c'est pas vrai. Ce qui est quand même hallucinant.
Exactement. En tout cas, mais surtout pas de Brexitus interruptus, si j'ose dire. On a vu les effets désastreux du retour, du reniement d'un vote populaire qu'on a connu en France, parce que c'est ce qu'on paye encore aujourd'hui à travers le mouvement des Gilets jaunes, ce refus de la démocratie, puisqu'on a transgressé un vote démocratique. C'est bien la preuve que la démocratie ne fonctionne pas. Et enfin, je termine là-dessus pour aller très vite, c'est que je trouve que c'est un tel défi à l'Europe, c'est formidable. Je veux dire, c'est le moment ou jamais de refonder l'Europe.
Moi, deux petites remarques. C'est un sujet français, c'est un sujet franco-européen, mais c'est un sujet français. Ça intéresse les Français, donc c'est différent des dossiers dont on parlait avant la pause. Et puis, secondo, au contraire, je crois que ça mobilise les pro-européens français. Je crois qu'il y a des tas de gens qui sont en train de se rendre compte que ça se passe vraiment mal et qu'il faut être maintenant beaucoup plus prudent dans notre traitement de l'Europe.
Alors, si vous
les
permettez,
élections vont dire si j'ai raison ou
d'accord,
tort, mais je le ressens comme ça.
Alors, par ailleurs, je ne partage pas le point de vue de Nicolas Domenac sur l'hypothèse d'un second référendum. Je pense que, je pourrais dire comme Baudelaire, qu'on a le droit à l'erreur. Je pense que dans la démocratie représentative, les parlements ont le droit à l'erreur. Je pense que vous avez des majorités de gauche qui ont, par exemple, longtemps voté des nationalisations et puis qui, après, ont décidé que non, c'était absurde, voire ont adopté des privatisations. Ils se sont contredits. On a le droit de se contredire, en quelque sorte. Hein. C'était d'ailleurs le droit de se contredire, je crois, que l'expression exacte de Baudelaire. Le droit de s'en aller et le droit de se contredire qu'il fallait ajouter à la Déclaration des droits de l'homme. particulièrement quand le référendum s'est déroulé dans des conditions extraordinairement déplaisantes. Accessoirement, mais ce serait trop long de s'en expliquer, je ne suis pas complètement d'accord non plus avec la thèse qu'on a immédiatement trahi le référendum de 2005 parce que le traité n'est pas la même chose que le référendum, parce que Nicolas Sarkozy s'y était engagé dans sa campagne et que de là, il y a un leitmotiv qui est répété notamment par les populistes et que Nicolas Domnac a voulu partager de bonne foi, mais que je ne partage pas. Mais en même temps, comme tout le monde pense ce que vous dites, c'est vous qui avez raison et moi qui ai tort, mais vous pensez une erreur. Bon, voilà, c'est ça la vie.
Quel dialecticien quand même. C'est la vérité. Vous avez été élevé par les jésuites, non?
Même pas. Alors la chanson pour terminer, ben voilà, on est dans le même sujet parce que Union Jack, on a choisi une chanson que je vais dédier à la fois aux Brexiteurs et à Bouteflika. Alors, enfin, aux Algériens contre Bouteflika. Parce que aux Brexiteurs, parce que y en a qui se disent maintenant, bah puisque c'est comme ça, allez-y, partez, c'est bon, et que la chanson s'appelle Hit the Road Jack, ça veut dire casse-toi Jack, va-t'en Jack, et ça vaut aussi pour Bouteflika, Hit the Road Jack, va-t'en Jack, Ray Charles.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
L'immense Ray Charles, 1961. Bye bye, Jack. Va-t'en, Jack. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Cette émission a été réalisée par l'excellent Jean-Luc Arblade et préparée par Paul Lassène. Et nous avons eu deux invités qui sont des comparses, mais qui savent se confronter, Maurice Safran et Nicolas Domnac. Bonne chance à vous, messieurs.
Merci.
Merci à vous, Olivier Duhamel.
On peut écouter l'émission en podcast. Sur
c'est ce que j'allais dire.
Super, Gérard.
Voilà, on vous retrouve sur Europe 1.fr. Merci beaucoup.